Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Internet, l'envers de la toile. Comment circulent les informations dans ce gigantesque réseau? Où sont stockées nos données et avec quelles garanties? Quel est le coût énergétique et l'impact écologique d'Internet? Et puis, jusqu'où va le pouvoir des géants du web? Accrochez-vous à vos souris cet après-midi. On passe de l'autre côté de l'écran en compagnie d'un informaticien, Serge Abitbol, et d'une journaliste qui a beaucoup enquêté sur Internet, Colline Tison, pour leur adresser vos questions. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, la planète Mars qui nous réserve encore et toujours des surprises. Catherine de Coppet, bonjour.
Bonjour, une surprise géologique en l'occurrence. La croûte et le manteau de la planète rouge ont littéralement basculé autour du noyau il y a environ 3 milliards d'années. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs français et américains.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par François Mercier et Estelle Honora.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour, Colline Tison et Serge Abitbol.
Bonjour.
Bonjour.
Colline Tison, vous êtes journaliste et vous avez publié Internet, ce qui nous échappe aux éditions Yves Michel. Vous aviez d'ailleurs réalisé auparavant un documentaire sur la pollution cachée d'Internet, dont on parlera également dans cette émission. En fait, vous avez fait d'Internet votre terrain d'enquête favori. Pourquoi ce sujet vous fascine tant ?
Moi, je suis née en 1981, donc je suis née avec les ordinateurs, avec Internet. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien de cet outil que j'utilisais tous les jours et qu'il était bien plus matériel que ce que je pensais et qu'il n'était pas si magique que ça.
Serge Abitbol, informaticien, le monde des algorithmes qui régissent Internet semble très opaque et très secret finalement. C'est une impression ou c'est une réalité ?
C'est une impression, une réalité. La réalité, c'est que les gens ne comprennent pas du tout ce qui se passe là-dedans, mais d'un autre côté, c'est juste parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer.
Eh bien, on va essayer de prendre le temps. Nous partons explorer les coulisses d'Internet avec vous cet après-midi. Internet par le biais duquel les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, la planète Mars est une découverte qui change profondément l'idée qu'on avait jusqu'ici de sa jeunesse, Catherine.
Imaginez un fruit dont la chair aurait tourné autour de son noyau, ou pour la Terre, que le pôle Nord, par exemple, se retrouve à Paris sans que le noyau ne bouge. C'est un phénomène de basculement de ce genre qu'une équipe de planétologues français et américains vient de révéler dans la revue Nature, parue en ligne hier.
Pour en parler avec nous en studio, Sylvain Boulet, vous êtes planétologue au GEOPS, un laboratoire de l'Université Paris-Sud et du CNRS. C'est vous qui avez mené cette étude incroyable. Alors que s'est-il donc passé à la surface de Mars il y a environ 3 milliards d'années? Pouvez-vous nous décrire précisément ce grand basculement martien?
À la jeunesse de Mars, c'est toute une histoire, effectivement. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. Ce qui s'est passé, tout simplement, depuis à peu près entre 4 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, on a eu un immense dôme volcanique qui s'est formé, des épanchements de lave sur des milliers de kilomètres, qui a formé une espèce de dôme de plus de 5000 km de diamètre sur 12 km d'épaisseur. Et au cours de sa croissance, à un moment donné, cette grosse verrue, est devenue trop grosse et toute la planète a finalement basculé.
A piqué du nez sous le poids de sa verrue.
Voilà, exactement. Imaginez-vous, vous mettez une grosse verrue sur le front remplie de plomb, votre tête va basculer et du coup, on va modifier le visage de la planète Mars.
Catherine.
Est-ce qu'on avait déjà une idée de ce phénomène de basculement? Est-ce que ça s'est déjà vu ailleurs?
Oui, alors ce phénomène de basculement a été mis en évidence par des géophysiciens. Théoriquement, on le sait, ça peut exister sur la planète Terre, sur des satellites, et on le savait aussi que ça pouvait exister sur la planète Mars.
Donc ça s'appelle le Polar Wandering. Et alors jusqu'ici, l'hypothèse a été faite par calcul, par modèle géophysique. Vous l'avez fait à partir d'observations de terrain, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on cherchait finalement des preuves sur la surface qui pouvaient montrer ce basculement. Et comment on l'a trouvé ? Eh bien, grâce aux rivières à la surface de Mars. En fait, si on regarde aujourd'hui les rivières à la surface de Mars, on a l'impression qu'elles sont un petit peu partout dans l'hémisphère sud, un peu situées aléatoirement. Et si on rebascule la planète et qu'on la remet à l'endroit comme elle était avant le basculement, eh bien on se rend compte que toutes ces rivières s'alignent sur une bande tropicale, là où finalement il y avait de la neige, de la glace qui s'accumulait, et où finalement cette glace était la source de ces rivières qui coulaient gentiment vers l'hémisphère nord.
On se demande presque pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt, ça paraît presque évident maintenant que vous nous le dites, tout rentre dans l'ordre en quelque sorte.
Alors tout rentre dans l'ordre effectivement, mais il faut effectivement essayer de faire le lien entre ces observations de géophysique, ces observations de surface, le climat. Donc ça c'est finalement l'interdisciplinarité, de se parler entre scientifiques, et c'est ce qui fait la réussite de ce papier et de toute l'équipe qui a travaillé sur cette publication.
Sylvain Boulet, est-ce que ces phénomènes de basculement ont pu concerner la Terre à une certaine époque ou c'est totalement impensable?
Oui, non, on le pense. Hein, plusieurs équipes travaillent sur ce phénomène de polar wandering sur Terre. Vous savez, sur Terre, la Terre respire avec cette tectonique des plaques. Les plaques se rassemblent, s'éloignent, etc. Et finalement, la répartition des masses à la surface de la planète Terre change sans cesse depuis 4 milliards d'années. Et on a eu certainement des ajustements liés justement à cette tectonique des plaques.
Là, ce qui est très différent sur Mars, c'est que donc la croûte et le manteau ont basculé en même temps. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de tectonique. Et là, pour le coup, on peut l'observer parce que tout ça est figé aujourd'hui.
Exactement. Sur Mars, on a cette chance-là pour connaître l'histoire primitive. C'est qu'on a des terrains très, très vieux, entre 3 et 4 milliards d'années. Et donc, on arrive à replonger dans l'histoire et à retrouver la trace de ce basculement.
Alors, qu'est-ce qu'une telle découverte va apporter aujourd'hui pour la compréhension de Mars ?
Alors, un tel basculement, évidemment, ça va avoir des conséquences sur le climat. Hein. Imaginez-vous, sur Terre, effectivement, si on met le pôle Nord en Islande, eh bien, Paris va se retrouver sur le cercle polaire, notre Bourgogne va se retrouver en Mauritanie ou au Soudan. Bref, sur le climat général de la planète, ça a changé des choses. Aujourd'hui, on arrive à mieux comprendre l'histoire primitive avant le basculement. On arrive à montrer que toute cette période avant le basculement, eh bien, il y avait des volcans qui émettaient beaucoup de lave, qui étaient contemporains à l'activité fluviale. Et puis après ce basculement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question aujourd'hui. Qu'est-ce que ce basculement a provoqué? Est-ce qu'il y a eu un arrêt du champ magnétique, une disparition de l'atmosphère? Bref, il y a encore de nombreux mystères.
Est-ce qu'on peut envisager finalement que la vie sur Mars aurait pu, évidemment on est vraiment au conditionnel là, mais aurait pu apparaître à cette époque, et puis ce grand basculement aurait tout fait flancher, aurait stoppé net l'apparition de la vie, alors que sur Terre, ça a continué.
Bon, vous avez trouvé ma pensée la plus profonde, j'ose pas le dire, parce qu'il faut pas trop en parler. On espère trouver un jour de la vie. Si on envoie une sonde dans 2 semaines ExoMars, c'est quand même pour essayer de retrouver ces petites traces de vie. Et effectivement, si la vie est apparue, c'est avant ce basculement. Si la planète a changé de visage, peut-être qu'effectivement, ce basculement est à l'origine de beaucoup de chamboulements à la surface.
Dans une moindre mesure, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les prélèvements géologiques qu'on pourrait effectuer sur Mars ou qu'on a effectués n'ont pas la même signification désormais grâce à votre découverte.
C'est ça, en fait, maintenant quand on va étudier ce premier milliard d'années, tous les endroits qu'on a étudiés auparavant, il va falloir le recontextualiser avec la nouvelle géographie, parce que c'est ça qu'on propose, c'est finalement une nouvelle géographie martienne pour le premier milliard d'années. Donc on va avoir tous les sites d'atterrissage des différents robots, il va falloir repenser un petit peu où est-ce qu'ils étaient dans cette nouvelle géographie.
Et notamment la sonde Phoenix qui avait fait des prélèvements de glace, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Effectivement, moi je trouve cette coïncidence assez troublante.
Expliquez-nous la coïncidence.
le robot Phoenix, donc c'est un petit lander américain qui s'est posé en 2008 aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, et il est allé se poser pour gratouiller, pour essayer de trouver de la glace juste dans le premier mètre. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec cette étude que ce robot s'est posé exactement au pôle nord qu'on a calculé, l'ancien pôle nord. Donc aujourd'hui, si on va voir les paysages de Phoenix, on voit des paysages complètement désertiques, mais peut-être qu'effectivement, il y a 4 milliards d'années, il y avait peut-être 1 kilomètre de glace sur ce site-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la glace en profondeur, et que cette glace en profondeur à plusieurs dizaines de mètres sous le site d'atterrissage, eh bien elle viendrait peut-être de cette calotte polaire qui s'était formée il y a 4 milliards d'années. Donc aujourd'hui un site où on est allé un peu par hasard.
Alors, Phoenix à cet endroit ?
On y est allé parce que on savait qu'il y avait un tout petit peu de glace sur la surface et qu'il y avait une anomalie, on comprenait pas pourquoi il y avait cette anomalie. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'on en est sûr, mais en tout cas elle correspond exactement à l'emplacement de cette ancienne calotte polaire.
Rassurez-vous, chez nous, il n'est pas prévu, il n'est pas envisageable qu'il arrive la même chose à la Terre dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains millions d'années.
Non, ça va, on est tranquille. Et puis même si ça avait lieu, c'est un phénomène qui est lent, hein, c'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça en quelques secondes. Là, sur le basculement sur Mars, ça a duré certainement quelques dizaines de millions d'années, donc c'est un basculement très lent, on a le temps de le voir, mais c'est vrai que ça a des conséquences très importantes sur le long terme.
Un grand merci à vous, Sylvain Boulet, d'être venu nous parler de ce grand basculement martien. Et merci à vous, Catherine. À demain.
Merci, à demain. Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les dérèglements du climat pourraient causer plus de 500 000 décès en 2050. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont étudié l'impact des changements climatiques sur l'agriculture et donc sur notre équilibre nutritionnel. Leur conclusion, sans réduction significative d'émissions de CO2, une personne mangera en moyenne 99 kilocalories en moins chaque jour. L'obésité reculerait donc potentiellement, mais puisque notre consommation de fruits et légumes baisseraient aussi, nous serions moins bien nourris. Ce bilan hypothétique pourrait amener les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques en profondeur pour s'adapter aux variations du climat. La libellule est l'insecte qui migre le plus loin par rapport à sa petite taille. Le nouveau champion du voyage est le Pantal Globetrotter. En Amérique du Sud, au Japon, en Inde ou encore au Texas, ce petit insecte de 4,5 cm est implanté presque partout. Et les chercheurs n'ont pas trouvé de différence génétique significative entre ses habitants éloignés, ce qui suppose qu'ils sont issus de la même lignée de libellules sauvages. Selon les chercheurs, si cette espèce de libellule va jusqu'à deux fois plus loin que les autres insectes, c'est grâce à ses ailes qui présentent plusieurs surfaces de contact avec le vent. Le Pantal Globetrotter n'a donc pas volé son surnom. Les abysses de l'océan Pacifique ne sont pas silencieux. Ils grouillent même de bruit en tout genre. Communication entre mammifères, sous-marins, moteurs de bateaux ou encore tremblements de terre comme celui-ci. Les Américains ont plongé pendant 3 semaines leur hydrophone à 11 km sous l'eau, dans le point le plus profond des océans jamais enregistré au sein de la fosse des Mariannes, non loin de la Micronésie. Dans les années 60, cette fosse aurait dû être utilisée comme décharge de déchets nucléaires, mais la découverte de formes de vie sous-marines a heureusement fait capoter le projet. Vous pouvez donc dès à présent profiter de cette douce cacophonie sous-marine sur le Facebook de La Tête au Carré. Dans un instant, on part explorer les coulisses d'Internet. Nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission, sur franceinter.fr. Mais pour l'heure, on écoute Sage qui chante One Last Star. J'en profite pour vous signaler que le clip de ce nouveau titre est en ligne en exclusivité, s'il vous plaît, sur le site de France Inter. I'll make it through this. On s'intéresse à Internet et au-dessous de la toile dans la tête au carré en compagnie de la journaliste Colline Tison, auteure de Internet, ce qui nous échappe aux éditions Yves Michel, et Serge Abitboul, informaticien, chercheur à l'INRIA et professeur à l'ENS Cachan. Alors Internet a déboulé dans nos vies et notre quotidien il n'y a pas si longtemps. Écoutez comment on nous présentait le réseau en 1995.
Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement, environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet.
Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout.
Quelle que soit son évolution, Internet aura révolutionné l'accès au savoir.
Un reportage signé Patricia Charnelet, diffusé dans le journal de 20h le 6 février 1995 sur France 2. C'était il y a 21 ans, ça paraît très très loin. On parle en francs, le nombre de connectés, c'est 30 millions de branchés. Alors le réseau a-t-il beaucoup évolué en deux décennies? Vous ajouteriez quoi pour compléter cette présentation d'Internet, Colline Tison?
Moi j'ajouterais quand même qu'entre-temps Google s'est construit en 98, ensuite il y a eu Facebook. Et tous les grands réseaux qu'on connaît, tous les GAFA, comme on les appelle, les grandes entreprises d'Internet.
Donc GAFA, c'est
Google, Apple, Facebook, Amazon, qui aujourd'hui sont vraiment les plus puissants d'Internet.
Serge Abitboul, comment vous compléteriez cette description qu'on faisait d'Internet il y a 20 ans, 21 ans?
Je commencerai par les chiffres. Des 30 millions, maintenant, c'est plus de 3 milliards. Donc, c'est complètement démocratisé. Maintenant, tout le monde y a accès. À cette époque-là, c'était quand même les gens qui étaient capables de débourser un peu d'argent. Maintenant, ça coûte plus très cher. Tout le monde y a accès. C'est devenu quotidien dans notre travail, dans nos loisirs. Donc, ça a vraiment amené des transformations majeures dans nos vies. Alors, évidemment, avec des petits désavantages, peut-être. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est tous les changements et toutes les possibilités que ça nous ouvre.
Alors, allez-y, Colline Tison.
Je voulais juste dire qu'il y a 3 milliards de terminaux connectés. Il y a aussi 5 à 7 milliards d'objets qui sont maintenant connectés à Internet. Donc, il n'y a plus seulement nos téléphones et nos ordinateurs. Il va y avoir notre montre, notre balance, notre fourchette, tous nos objets de la vie quotidienne qui sont connectés aussi.
Plus d'objets que d'internautes, en fait,
exactement,
connectés.
Oui, exactement.
C'est vrai que c'est étonnant. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, 3,3 milliards de requêtes sont effectuées sur 30 milliards de pages indexées par Google, rien qu'en une journée, chaque jour, les chiffres que je vous donne, 350 millions de photos, 4,5 milliards de likes sont distribués sur Facebook chaque jour, 144 milliards d'emails échangés. Alors tout ça, ça paraît très virtuel, presque vaporeux, mais évidemment... C'est beaucoup plus concret que ça, Colline Tison.
Oui, derrière, rien n'est magique sur Internet. Tous ces mails, tous ces posts Facebook, tous ces vidéos sont stockées quelque part. Elles passent dans des câbles. Elles sont matérialisées à travers dans les réseaux. Ouais. Elles doivent être alimentées en permanence avec de l'électricité. Elles doivent être refroidies avec de la clim. Et donc, c'est très concret, en fait.
Prenons l'exemple d'un simple mail qu'on envoie. Comment voyage-t-il?
Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir. Avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. À partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passer par le Japon ou l'Angleterre, Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux États-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence. Cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée Data Center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire.
C'est un extrait du documentaire que vous avez réalisé, Colline Tison, Internet, la pollution cachée. Et on s'en rend compte très précisément. Là, voilà, ce sont des câbles. Il y a des kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres de câbles qui traversent les océans, au fond des océans. Tout ça, c'est très concret. Hein, c'est plein de poussière.
Et moi, ce qui m'avait le plus étonné, c'est quand je parlais avec des informaticiens, je leur disais « Non, mais moi, je suis en Wi-Fi. Il n'y a pas de câble, sans fil. » Et là, ils rigolaient, ils disaient « Non, mais Wi-Fi, c'est pour le premier mètre. le câble, il part de votre immeuble et il va jusqu'au data center en Californie.
Ouais. » On a aussi cette image que ça passe par les satellites. En fait, non, ça passe pas éventuellement par des tuyaux bien physiques.
Ça passe par des câbles, nos câbles de téléphone au départ, puis de la fibre optique. Il y a 260 câbles qui sont sous-marins. Il y a 35 000 réseaux. Il y a autant de kilomètres de câbles en France, par exemple, que de kilomètres d'autoroute. Voire même plus, puisqu'il y en a...
Tout ça pour arriver dans ces fameux data centers qui stockent encore des données, Serge Habitbol. On a des chiffres absolument hallucinants. Si l'on numérisait toutes les communications et les écrits depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2003, bon, il faudrait 5 milliards de gigabits pour les mettre en mémoire. Et aujourd'hui, on produit ces 5 milliards de gigabits de données en 2 jours. C'est-à-dire ce qu'on a produit depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003, on le reproduit. Alors, on parle de la quantité, pas de la qualité. Hein. On ne réécrit pas Shakespeare tous les 2 jours. Mais en tout cas, on a un volume de données phénoménal. Où est-ce qu'on stocke tout ça? Comment on stocke tout ça?
Alors, la première chose qu'il faut bien se dire, c'est que les données qu'on produit chaque année dépassent toutes nos capacités de stockage. Donc, si au 31 décembre, on vidait tout et qu'on se mettait à stocker, on arriverait avant la fin de l'année à avoir de nouveau tout saturé. Donc, la plupart des données que l'on génère sont des données que l'on ne stocke que de façon très ponctuelle pour quelques minutes, peut-être quelques heures, mais pas de façon définitive.
Finalement, on oublie beaucoup plus qu'on ne pense alors avec Internet.
Ah oui, il y a une amnésie en permanence qui fait qu'on peut... Mais sinon, on tiendrait pas. C'est un peu comme un être humain qui essaierait de se rappeler tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entendu. Ça ne tient pas la route. Donc le principe là, c'est qu'il y a une grande partie d'informations qu'on oublie en permanence. Il y a par exemple des vidéos de surveillance. Les vidéos de surveillance, vous ne les gardez pas indéfiniment, heureusement. Donc c'est un peu aussi une question qui est posée pour des informations qui ont plus de valeur. Comment on choisit ce qu'on va supprimer? C'est pas du tout innocent de choisir ce qu'on supprime.
C'est précisément ce qui inquiète Pierre, qui nous envoie ce message via Internet, justement. Avec Internet et toutes ces données, images, vidéos numérisées, conservées, n'avons-nous pas un gros problème? On ne sait pas supprimer, effacer ce qui est devenu obsolète ou inutile. Au bout d'un certain temps, le mieux serait sans doute d'imprimer ce qui est vraiment important et d'effacer tout le reste. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus?
Non, absolument pas. Je le rejoins sur le fait qu'il faut savoir ce qu'on efface. C'est pas quelque chose de nouveau. On avait des archivistes. Un archiviste, c'est quoi son travail? C'est de décider parmi toutes les informations qu'on a générées, ce qu'on doit garder et ce qu'on peut détruire. C'est difficile. Hein. Alors aujourd'hui, comme on a explosé la quantité d'informations qu'on produit, le travail d'archiviste n'est pas devenu difficile, il est devenu impossible à faire manuellement. C'est-à-dire que ça doit être fait avec des ordinateurs, avec des machines qui vont nous aider à choisir l'information que l'on va garder. Alors par contre, la solution que propose Pierre, qui consiste à imprimer et à garder dans des dossiers, ce qui par hasard est déjà et encore le moyen d'archiver d'énormément d'administrations en France, c'est juste quelque chose qui ne tient pas la route. C'est quelque chose qu'il faudra revoir assez vite.
Alors une autre question qu'on peut se poser avec ces data centers, c'est les données sont-elles en sécurité? D'abord, que se passe-t-il si un data center est détruit par un tremblement de terre, un attentat ou un incendie? Est-ce que ça a été prévu?
C'est complètement prévu, parce que vous imaginez bien que l'information que vous mettez dans les data centers, elle est Elle a énormément de valeur et des fois, elle n'est pas facile à reproduire, des fois impossible à reproduire. Donc,
typiquement, on trouve quel type d'informations dans les data centers?
Vos données personnelles, mais aussi les données de banque, les données d'entreprise, etc. Donc, on trouve toutes les informations maintenant, en gros, sont dans ces data centers, sur le cloud. Vous avez regardé vos données personnelles, il n'y a pratiquement plus rien sur votre ordinateur. Ce qui est sur votre téléphone, c'est un réplica de ce qui est sur le data center. Donc, l'information qui a vraiment de la valeur est dans ces centers. Et donc, la façon qu'on connaît pour garantir contre les tremblements de terre, les inondations, etc., c'est de reproduire l'information. Donc, typiquement, quand vous avez vos photos, elles sont peut-être stockées dans un data center en Normandie, mais elles sont complètement répliquées dans un autre data center, peut-être en Sologne, je ne sais pas. Et donc, ce qui fait que même si vous n'avez pas de chance et que ce data center...
Alors, y a déjà... Est-ce que c'est un peu ordonné quand même? C'est-à-dire, est-ce que toutes mes photos sont dans le même data center ou on peut imaginer qu'une des photos ou qu'une partie de la photo est dans un data center en Normandie, une autre, pourquoi pas aux États-Unis? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit complètement éclaté comme
on
ça?
On peut tout imaginer. En tout cas, elles sont dans plusieurs endroits. Et on peut même imaginer que si une photo est très grosse, on pourrait mettre un bout à droite et un autre bout à gauche. Ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est le facteur de réplication. C'est-à-dire combien de fois la même photo est répliquée qui va vous garantir contre des problèmes.
Alors, l'autre question sur la sécurité, c'est ces données qui nous appartiennent, qui nous sont très précieuses et qui ne sont plus vraiment chez nous, qui y a accès? Est-ce que des pirates informatiques peuvent... Est-ce qu'elles sont sécurisées, ces données? Est-ce qu'on peut se les faire pirater?
Alors, on est un peu dans l'ère du western, c'est-à-dire que c'est protégé dans la mesure du possible. Donc, pendant très longtemps, par exemple, quand vous envoyez des données quelque part, elles n'étaient même pas cryptées. Alors maintenant, elles sont quand même encryptées. Par exemple, votre courrier, et quand vous recevez ce courrier est encrypté. Ça vous protège au moins sur les communications, qui est un maillon quand même très faible de protection des données. À l'intérieur des serveurs, de ces grands services Internet dont on a déjà parlé, les données le plus souvent ne sont pas encryptées parce que ce serait trop compliqué, ça ferait perdre en performance, ça prend du temps de crypter, décrypter les données. Donc, la plupart du temps, dans les data centers, les données sont en clair. Alors, si vous voulez être un peu confiant, il y a l'infrastructure du data center qui vous protège. C'est-à-dire que n'importe qui n'a pas le droit d'aller rentrer et d'aller voir vos données chez Orange ou chez Google ou chez Facebook. Mais si quelqu'un arrive à s'introduire, et on est loin de garantir complètement la sécurité, si quelqu'un arrive à s'introduire, il va avoir accès à vos données.
Alors, pour avoir un avis peut-être plus personnel de l'informaticien, est-ce que vous, Serge Habitboul, quand vous avez quelque chose de très secret, de très confidentiel, vous le mettez sur le cloud ou vous le mettez sur un disque dur chez vous, sous le matelas?
Je ne pense pas que le disque dur sous le matelas chez vous soit beaucoup plus sécurisé.
c'est pas faux.
La question, c'est est-ce que vous avez envie d'utiliser cette technologie? Moi, j'aime bien tous les services qu'on me rend, donc je fais confiance. A priori, j'essaie de ne pas être trop parano. Mais d'un autre côté, si j'avais vraiment des informations hyper confidentielles, j'éviterais juste de les mettre dans un ordinateur.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser au coût énergétique et à l'impact écologique d'Internet. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Juste sous mes doigts si fragiles qu'elle seule peut voir et sentir. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas vraiment. Elle veut comfort. se défend. Lover, outsider, un tango déglingué. Dernier pari de l'autre côté, de la dangereuse qui se rend.
C'était Christophe qui nous chantait « Dangereuse » dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fiévé.
Et nous explorons les coulisses d'Internet en compagnie de l'informaticien Serge Abitboul et de la journaliste Colline Tison, auteur de « Internet, ce qui nous échappe » aux éditions Yves Michel. Et ce qui nous échappe, notamment Colline Tison, c'est la consommation énergétique du réseau. Internet est-il gourmand en énergie ?
Internet est vorace en énergie. Un mail avec une pièce jointe, c'est l'ADEME qui a fait le calcul, consomme à peu près 24 watt-heures. Alors si vous êtes comme moi et que ça vous dit rien du tout, c'est une ampoule allumé pendant une heure pour un mail. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en une heure, il y a 10 milliards de mails qui sont envoyés. En un an, je ne sais même plus comment dire les chiffres. Et donc, si on additionne toute la consommation d'Internet, c'est responsable de 2% de notre consommation mondiale et des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, si on prend, donc ça, c'est rien que pour le mail. Si on prend le moteur de recherche Google, là aussi, c'est des machines de calcul et de l'énergie colossale.
C'est des millions de serveurs, Google. Donc, ils utilisent à peu près autant d'énergie que la ville de Bordeaux. Et eux disent qu'ils utilisent 2 TWh par an. Donc, voilà.
Alors, physiquement, c'est comment ? Quand on se rend, le moteur de recherche Google, pour nous, qui correspond juste à une page et puis à des pages de résultats, Serge Abitboul, quand on va dans les locaux de Google, ça ressemble à quoi ?
Alors, je pense que vous voulez dire les locaux des data centers de Google.
Voilà.
C'est comme tous les data centers, j'imagine, parce qu'ils sont assez secrets, mais j'imagine que c'est comme les autres. Donc, vous avez des allées avec des tours de processeurs qui fonctionnent en permanence. Donc, il y a énormément besoin de courant, comme ça vient d'être dit, pour alimenter tout ça. Et puis, c'est en général dans un coin un petit peu reculé pour être un peu protégé. Et il y a des trucs pour stocker, des disques pour stocker l'information, des processeurs pour faire des calculs. C'est des millions de processeurs qui travaillent en permanence.
Alors, selon un algorithme ou des algorithmes, ces espèces de recettes, de formules informatiques qui permettent de chercher instantanément, ça paraît immédiat et presque magique. On met quelques mots-clés et dans une fraction de seconde, on a les réponses à nos requêtes quand on cherche sur n'importe quel moteur de recherche. Ça marche comment, un moteur de recherche ?
Alors c'est de la très très belle techno, hein, c'est des très très beaux algorithmes, c'est du très bon travail. Donc il y a vraiment deux aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est l'aspect d'un index. Donc c'est un index, c'est comme ce qu'il y a à la fin d'un bouquin, vous lui donnez un mot, il vous dit toutes les pages où on trouve ce mot. Alors ça, c'est comme dans un livre, sauf que le livre là, il a 10, 20, 30 milliards de pages. D'accord ? Donc ça fait un très gros index, hein, si vous imaginez la taille que pourrait faire un index qui aurait 30 milliards de pages. Qui indexerait 30 milliards de pages. Mais ça, j'allais presque dire, c'est de la techno de base, et il faut être un peu astucieux, c'est du bon engineering. Après, il y a la partie qui est un petit peu plus presque magique, entre guillemets, parce que c'est tout à fait scientifique, qui est comment on fait pour choisir parmi les 300 millions de pages qui contiennent les mots-clés que vous avez mis dans votre requête, comment on va choisir les 10 pages qui vont apparaître sur la première page de résultat, en sachant bien que les gens vont rarement au-delà de ça. Donc si vous ne mettez pas un résultat là, en gros, c'est comme s'il n'existait pas sur le web.
Ce qui donne, entre parenthèses, un pouvoir immense au moteur de recherche.
C'est un pouvoir considérable et c'est un pouvoir qu'à mon avis, il faudra un jour réglementer ou arranger. Donc là, la question, c'est comment on fait pour choisir ces dix résultats. Et ça, c'est essentiellement trois critères. Le premier critère, qui est le critère un peu historique, c'est l'algorithme PageRank que Google avait sorti au tout début, qui a fait un peu le succès de de Google, qui est de regarder tout le graphe, ce graphe immense du web, et puis de chercher la popularité des pages uniquement en analysant ça. Donc c'est de toute beauté. Il faudra un petit peu de temps pour l'expliquer, mais on peut l'expliquer à tout le monde. Donc ça, c'est la première chose, c'est un peu, disons, le classement historique. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est l'utilisation de la personnalisation. Faire que la réponse soit celle que vous voulez, vous, et pas celle que tout le monde veut.
Ça implique de me connaître. Ça veut dire que Google commence à enregistrer des données personnelles pour savoir ce que j'aime, ce que je veux, ce que je cherche.
Absolument. Et ça, les deux choses principales pour vous connaître au moment où vous posez votre requête, c'est premièrement, si vous êtes sur un téléphone, où vous êtes, votre localisation, ça c'est important. Si vous tapez pizzeria et que vous êtes dans le 19e arrondissement, vous voulez une pizzeria dans le coin, vous voulez pas une pizzeria à San Francisco. Vous voulez pas la pizzeria la plus populaire du monde, vous voulez la pizzeria la plus populaire dans votre coin de Paris. Donc ça c'est une première chose, votre localisation, il y a aussi les clics que vous avez faits, les recherches que vous avez faites, ça peut être aussi vos goûts personnels, c'est un petit peu plus compliqué à retenir au moment où vous posez la requête, parce qu'il faut aller très vite, hein, vous l'avez dit, quelques millisecondes.
Et donc le troisième critère de classement de Google.
Le troisième critère, c'est celui que moi je trouve le plus suspect, c'est un critère commercial, c'est-à-dire faire monter les sites qui ont des intérêts, pour lesquels Google aurait des intérêts commerciaux. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, un comparateur de prix, si vous tapez une marque de téléphone, par exemple, eh bien, les premiers résultats vont être systématiquement le comparateur de prix de Google, parce que c'est un avantage commercial énorme de le mettre d'abord. Donc ça, c'est le côté le plus suspect.
Alors voilà, pour faire tout ça, vous nous l'avez dit, hein, Colin Tison, c'est l'énergie, l'électricité que la ville de Bordeaux consomme pour faire tourner ces grandes machines de Google. Vous le dites dans votre livre, si Internet était un pays, il serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Alors, ça pose tout de suite la question, qui produit, comment on produit cette électricité? Est-ce que ça a un réel impact sur l'environnement?
Ça a un impact sur l'environnement, d'autant que les data centers, Serge l'a très bien expliqué, sont très stratégiques. Ils ont besoin d'une électricité extrêmement stable. Ils ne peuvent pas fonctionner à l'énergie solaire ou à l'énergie avec les éoliennes parce que quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'énergie et quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'énergie. Donc ils ont besoin d'une énergie stable. Aujourd'hui, l'énergie la plus stable, c'est l'énergie charbonnée ou le nucléaire. Et donc, les data centers fonctionnent majoritairement au charbon et au nucléaire.
Et dans votre documentaire « La pollution cachée d'Internet », Colin Tison, vous vous êtes rendu donc aux États-Unis, là où se trouvent les plus grands data centers à proximité de centrales à charbon, et vous avez survolé les montagnes alentours, c'est les Appalaches en Virginie occidentale.
C'est un site impressionnant, il fait même un peu peur. Ce qu'ils font, ils vont d'une montagne à une autre. Ils la détruisent, on tire tout le charbon qu'ils peuvent, et après, ils passent à la suivante. Près de 500 montagnes ont été décapitées. 19 000 km de cours d'eau ensevelis. Toutes ces montagnes ont disparu à jamais. Le reste du pays a détourné les yeux de nos problèmes et de ce qui se passe ici, pour que nous puissions avoir de l'électricité.
Oui, alors, ces montagnes n'ont pas été exclusivement détruites pour alimenter le réseau et pour faire tourner les data centers, mais une partie, et une partie non négligeable de tout ce charbon, sert à alimenter ces centrales à charbon pour les data centers. Et là, Internet devient très concret. Hein. Il s'imprime vraiment dans le paysage avec de véritables dégâts.
En fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que pour moi, Internet, c'était la Silicon Valley. Donc, je pensais que tout Internet était en Californie. Et je me suis rendu compte que Google, Amazon, Facebook, Apple avaient installé leur plus grand data center, leur centre de données, en Virginie, en Caroline du Nord, donc complètement de l'autre côté des États-Unis. Pourquoi ? Parce que là-bas, l'énergie était la moins chère. Et l'énergie était la moins chère, on peut se poser des questions, parce que l'énergie était charbonnée et les centrales sont des centrales thermiques qui fonctionnent avec du charbon. Et le charbon provient des montagnes un petit peu plus au nord. Et avant, il était creusé dans les montagnes avec des tunnels, dans des mines souterraines. Et aujourd'hui, on décalote les montagnes et on trouve le charbon en hauteur, quoi, sur les sommets. C'est, C'est assez horrible comme paysage.
Oui, les paysages sont vraiment défigurés. Hein. C'est vrai que c'est pas beau à voir. Alors du coup, on comprend mieux les recommandations de l'ADEME pour une utilisation écolo-responsable d'Internet. Vous allez me dire si vous trouvez que c'est à la hauteur ou si vraiment ça a un sens. Mais voilà ce que nous recommande l'ADEME. Limiter les destinataires quand on envoie un mail. Éviter de faire répondre à tout si c'est pas nécessaire. Ne conserver sur sa boîte mail que les messages importants. Simplifier ses recherches quand on va sur Google. Ne pas demander des tâches trop compliquées parce que ça demande plus d'énergie, donc plus de charbon. Alors, ce genre de pratique, c'est loin d'être entré dans les mœurs. On n'a vraiment pas du tout l'impression de polluer quand on est sur Internet. Est-ce que ça vous semble déjà un bon point de départ ?
C'est un bon point de départ. Moi, à la fin de mon documentaire, j'ai carrément supprimé toute une boîte mail qui était complètement polluée par les spams. C'est un bon point de départ. Il faut aussi peut-être demander aux informaticiens d'écrire leur logiciel et leur programme de façon plus écologique, c'est-à-dire avec moins de lignes de calcul. Il faut aussi éviter surtout les pièces jointes, en fait. Quand on dit répondre à tous, si c'est des mails sans pièces jointes, ça va. Si c'est une pièce jointe, la photo va être répliquée dans 3, 4, 5 data centers différents, 5, 6 serveurs différents à chaque fois. Et donc, à la fin, la photo qu'on aura envoyée, elle sera présente sur les serveurs peut-être 25, 30, 40 fois, quoi.
Serge Habitboul, rapidement, vous en tenez compte quand vous écrivez un programme, du coût écologique de votre programme ?
Non. mais je dois dire qu'il faut quand même dire qu'il y a eu énormément de progrès faits. Si vous réfléchissez, les premiers ordinateurs, l'ENIAC, prenaient comme la puissance d'électricité d'une petite ville américaine. Aujourd'hui, vous avez la même puissance de calcul avec votre téléphone. Donc il y a des gros progrès, il continue à y en avoir.
Bob Marley, Get Up, Stand Up sur France Inter.
Ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même... ça passera par chez vous, ah ça passera par tout le monde.
Ah non, alors là, je suis...
De quoi, non?
Je suis vers le cadastre.
Quoi?
Alors, c'est bien, c'est pas constructible.
Mais non,
ils m'ont
mais...
promis que c'était pas constructible. J'en veux pas des autoroutes.
Mais c'est pas... c'est pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui vont...
Oui.
Bon, alors...
Qu'ils disent?
Quoi qu'ils disent?
Qu'ils disent? Moi, j'en veux pas des autoroutes. Hein.
Mais non, mais vous aurez même des internets et tout. Alors, ça vous permettra de...
Il y a déjà un continent à Intermarché.
Oh non, mais non, mais je vous parle pas de ça!
Pas toujours facile de tout saisir des subtilités d'Internet. C'était les déchiens qu'on vient d'écouter. On essaie d'y voir plus clair avec l'informaticien Serge Habitboul et la journaliste Colline Tison, auteure d'Internet, ce qui nous échappe aux éditions Yves Michel. Plusieurs questions sont arrivées à votre intention. Mathieu, comment sensibiliser un internaute sur l'aspect écologique d'Internet alors qu'il n'est déjà pas facile de le sensibiliser sur la sécurité de ses propres données? N'est-ce pas mission impossible?
C'est très compliqué en effet, mais dès qu'on en parle, les gens sont assez sensibles. Il y a encore quelque chose que les internautes peuvent faire et qui est important, c'est éteindre vos équipements, éteindre votre ordinateur quand vous ne l'utilisez pas, éteindre votre box quand vous ne l'utilisez pas, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de la consommation qui vient aussi des utilisateurs et de nos équipements.
Arnaud nous dit, il ne faut pas oublier de dire que les fournisseurs d'accès à Internet commencent à prendre conscience de l'impact écologique de l'accès et de l'utilisation d'Internet. Plusieurs initiatives ont vu le jour dans le monde.
Oui, en effet, mais c'est parce que Greenpeace a lancé un rapport qui a fait un pavé dans la mare en se demandant si notre cloud était propre. Et du coup, les fournisseurs d'accès ou les GAFA, les Google, Apple, Facebook, ont été un peu obligés de réagir parce que leur image a été ternie par ce rapport.
Quel genre d'initiatives ont-ils
Google et Facebook installent des data centers en Suède, en Finlande, là où il y a un petit peu d'énergie plus propre. Apple a fait une grosse ferme solaire à côté de son data center pour essayer de compenser en énergie solaire sa consommation d'énergie.
Sans aller aussi loin, en France, à Paris, il y a une piscine dans le 13e arrondissement, la Butte aux Cailles, où on vient d'installer un data center dans les sous-sols qui chauffe l'eau de la piscine. Tout bénef. Ça refroidit les machines et ça chauffe l'eau pour ceux qui se baignent.
Ça commence à sortir. Certaines boîtes, Steamergy par exemple, a fait ce système pour pouvoir chauffer des logements sociaux grâce à la chaleur des data centers.
Alors ça, c'est aussi un autre projet qui est promu par certaines start-up de faire des radiateurs qui un peu comme si on délocalisait, on décentralisait ces gros data centers en mettant des petits bouts de data centers chez chacun d'entre nous qui servent de radiateurs. Et ça vous paraît crédible, ça?
Oui, ça me paraît génial. Moi, je voulais en mettre chez moi, d'ailleurs. C'est des radiateurs serveurs. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la chaleur produite par nos serveurs pour se chauffer et non pas pour être refroidi avec des climatiseurs dans un data center. Et ce que propose Carnot, c'est de partager de la puissance de calcul. C'est pas du stockage pour l'instant, c'est que de la puissance de calcul. Ça paraît possible parce que la puissance de calcul, c'est pas très stratégique comme information. S'il s'agissait de partager des données,
Les données confidentielles dans le radiateur de mon voisin, ça commence à devenir un petit peu problématique. Enfin, elles peuvent être cryptées, mais c'est vrai que c'est difficile à admettre.
Il y a aussi plein d'autres initiatives qui font de la décentralisation. Il y a WeTube qui propose de reprendre en main l'Internet en faisant du peer-to-peer de la bande passante, c'est-à-dire que chacun partage entre guillemets son réseau, sa bande passante. Et tout ça, ça permettra peut-être à terme d'avoir un Internet sans infrastructure centrale. Mmh. Alors, et à terme, dans 10-15 ans.
Hein. Oui, c'est ça, c'est prospectif ce qu'on est en train d'évoquer. Baptiste demande, y a-t-il des institutions internationales et indépendantes qui sont chargées de veiller sur la sécurité de nos données? Serge Habitboul.
Oui, bien sûr, mais il faut quand même il faut prendre un peu de recul et regarder. Internet, c'est une création de l'informatique qui a permis de faire aussi des télécoms. On peut communiquer par Internet, qui a permis de faire aussi de la télévision. Mais toutes les infrastructures de télévision et de communication étaient par définition très centralisées. C'était très national. Hein. Il y avait des infrastructures dans les différents pays. Et puis après, il y avait des instances internationales où tout le monde se retrouvait, discutait. Et puis à la fin, arrivait à mettre des normes, des machins comme ça. Internet, depuis le début, c'est quelque chose qui est par vocation, par définition, extrêmement décentralisée. Donc il y a des structures, il y a des petites structures qui légifèrent ou qui s'organisent autour de thèmes très particuliers,
mais
comme les noms de domaine. Qui contrôle
justement, qui gouverne, vous parliez des noms de domaine là à l'instant, qui décide d'attribuer les noms de domaine?
Donc il y a des petites structures qui décident ça, mais encore une fois, l'idée, l'esprit d'Internet, c'est le contraire de vouloir avoir une autorité qui décide de tout, qui organise tout. Ce qui fait la puissance d'Internet, la puissance technique, c'est justement le fait que ce soit complètement décentralisé, que vos messages puissent prendre des tas de routes différentes, que ça se décide presque au vol, et qu'il n'y a pas une grande autorité centrale qui décide, ah ben le message de machin doit aller, pour aller là, il faut qu'il passe à tel endroit. Ce serait beaucoup, beaucoup plus fragile. Et donc la structure d'Internet extrêmement décentralisée, c'est ça qui fait un peu sa puissance. Et est-ce que ce que vous disiez sur les aspects pair à pair, c'est presque d'aller encore plus loin, plutôt que de centraliser et puis de légiférer, au contraire, de laisser les gens s'auto-organiser, s'organiser localement.
Donc pair à pair, je rappelle, c'est ce qu'on appelle aussi le peer-to-peer, c'est un peu de mon disque dur qui discute avec le disque dur du voisin et tout le monde stocke l'information en se l'échangeant.
Vous pourriez faire des communications, et d'ailleurs c'est fait notamment pour des jeunes, des communications au niveau local d'une petite ville, sans passer par des serveurs, sans passer par un serveur central.
Colline,
je me permettais de poser une question à Serge, du coup, parce que l'ICANN, qui gère les noms de domaine, c'est quand même une structure qui est centrale et qui est américaine, qui est une fondation, d'accord. Mais il y a quand même une fondation qui gère Internet, entre guillemets.
Oui, mais est-ce que c'est beaucoup de pouvoir? Je sais qu'on en parle beaucoup, je sais que ça s'inquiète énormément, mais est-ce que c'est beaucoup de pouvoir, l'ICANN? Pas tant que ça.
Où le pouvoir d'Internet? Finalement, le pouvoir d'Internet, c'est les géants, c'est Google, Amazon, Facebook, ce sont eux qui ont le vrai pouvoir sur Internet.
Donc, si vous voulez, ce qui a créé, ce qui a le plus modifié Internet, qui a le plus changé les choses, disons depuis 30 ans, on va dire, c'est le web. Et le web, c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas du tout des structures, c'est des centres de recherche, c'était au départ des normes qui se sont mises en place, mais complètement orthogonalement de tout gouvernement et toute institution. Alors, il y a des initiatives pour essayer, internationales, pour essayer de corriger certains travers du web, travers de l'Internet. Il y a la Net Mondial Initiative, par exemple. Donc, il y a des choses qui essaient de dire, bon, ça fonctionne, c'est très distribué, on ne veut pas, et je pense que de manière générale, ce ne serait pas très efficace d'avoir quelque chose qui se centralise, qui se gouvernementalise. On veut garder cet esprit, mais en même temps, il y a des dérives, il y a des problèmes qui se posent, des problèmes techniques, et ça, il faut les résoudre.
Colline Tizan.
Je voulais réagir. La puissance d'Internet, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. C'est nous qui postons des informations, c'est nous qui faisons vivre Internet, qui l'alimentons en permanence avec les informations qu'on lui donne. Et donc, c'est un petit peu à nous, aux citoyens aussi, de reprendre le pouvoir.
Oui, chose avec laquelle vous êtes tout à fait d'accord. Pour vous, il faut éduquer le citoyen pour qu'on puisse être un peu partie prenante dans la gestion d'Internet.
Exactement. Il faut éduquer le citoyen, il faut que le citoyen s'organise. Il faut que le citoyen impose ses volontés. Et puis, il faut que les gouvernements fassent aussi ce qu'il faut pour régler tout ça.
Je signale d'ailleurs que vous participez à un blog, vous le tenez avec plusieurs chercheurs et professeurs pour informer le public sur l'informatique et sur les rouages d'Internet. Ça s'appelle, l'adresse binaire.blog.lemonde.fr. Le lien est sur la page de l'émission. Et puis Colline Tizan, Internet, ce qui nous échappe, aux éditions Yves Michel. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Juste après les infos, on retrouve Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Bonjour Fabrice.
Bonjour Daniel. Nous parlerons des JO de Mexico avec ces deux athlètes noirs qui ont levé le poing sur le podium, un poing ganté de noir. Message politique, évidemment. Et notre invité, ce sera Roger Bambuc, témoin de premier ordre, puisqu'il était athlète français qui a participé aux JO. Et ensuite, vous le savez, il était secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, bien plus tard.
On va suivre ça avec intérêt.